autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle infâme.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de Stop Nucléaire Drôme Ardèche. On profite de cette première émission de l'année 2016 pour vous souhaiter à toutes et à tous une belle année, hein. Une belle année renouvelable et puis une belle année sans atomes. Et nous allons reprendre notre émission. D'abord, une première rencontre qu'on va faire aujourd'hui avec un salarié du nucléaire, de la sous-traitance, qui s'appelle Gilles Reynaud et qu'on aura tout à l'heure au téléphone. Et puis, le billet de Georges sur Fukushima. Bonjour Georges, et belle année.
Merci, chers auditeurs, chères auditrices et auditeurs. Bonjour et meilleurs vœux à toutes et tous pour cette année 2016. Que le Japon et son peuple retrouvent la santé. Alors les informations que je vais vous donner, elles sont tirées d'après Ori Yashuo, traduit de l'espéranto par Ginette Martin avec l'aide de Paul Signoret. Tout d'abord, le récit d'un voyage de Ori Yashuo, bien sûr, à la gare de Tatsuta dans la ville de Nara, le département de Fukushima. Donc il dit, elle est pour l'heure la gare la plus au nord sur la ligne Joban qui relierait Tokyo à Sendai, si le séisme et le tsunami ne s'étaient pas produits. Plus au nord, il y a encore des rails, mais aucun train n'y circule. À l'intérieur, un radiomètre indiquait 0,161 microsievert par heure, et à l'extérieur, un autre indiquait 0,209. Selon la loi, les lieux pollués à plus de 0,230 microsievert par heure doivent être dépollués. Peut-être y a-t-il alentour des endroits plus pollués. Les habitants peuvent maintenant revenir loger à Naraha, car on en a achevé la dépollution depuis déjà le 5 septembre 2015. Mais seulement 450 des 8000 habitants sont revenus. 4 ans déjà se sont écoulés depuis l'accident, et beaucoup de gens se sont installés ailleurs. Des parents refusent que leurs enfants vivent dans un lieu radioactif. Des enfants qui, du fait de leur situation de réfugiés, ont dû changer maintes fois d'école, ne veulent plus que cela se reproduise. Ça et là s'ouvrent des chantiers de réparation de maisons. Pour des raisons de sécurité, ont été installées des caméras de surveillance dans les principales artères de la ville, afin que les habitants puissent vivre tranquilles. Dans toutes les villes sinistrées du département de Fukushima, de nombreux voleurs sont apparus. De plus, beaucoup d'hommes venus de l'extérieur y travaillent à présent, si bien que les gens, les femmes en particulier, ont peur de revenir y loger. Devant la gare est affichée une belle image de l'avenir de la cité, mais quand donc se réalisera-t-il? Pas très loin de Tatsuta, une autre gare, Tomioka. C'est une gare relativement grande, où arrivaient des trains rapides. Or, à présent, il n'y a plus que des quais, car tout le reste a été détruit par le tsunami. Rien n'a changé dans le paysage qu'on voit devant la gare. Dans une maison se trouve une camionnette que la vague du tsunami a transportée là, et le long des rues s'alignent les ruines des boutiques et d'habitations détruites. En raison de la forte radioactivité, on n'a pas pu les démolir. Entre la mer et les quais s'élève à présent un grand bâtiment blanc entouré de sacs de plastique noir contenant de la terre polluée. Dans cet entrepôt, on en réduit le stock par combustion ou par dessiccation. Le résidu sera conservé dans le dépôt. Du rivage, on peut apercevoir la centrale nucléaire numéro 2 de Fukushima. Elle contient 4 réacteurs. Dans la centrale nucléaire numéro 1 se trouvent 4 réacteurs détruits et 2 restés intacts, dont la compagnie TEPCO a décidé qu'ils seraient tous mis au rebut, mais elle ne promet pas le rejet des 4 réacteurs de la centrale numéro 2, quoique le département de Fukushima et la totalité de ses villes et villages le réclament avec force. Il est certain que la compagnie et le gouvernement ont l'intention de réutiliser ces réacteurs. Ils attendent que les gens aient oublié l'accident. Ensuite, il y a la gare de Nami. Toutes ces gares sont sur la ligne côtière de Fukushima. Ici aussi, rien n'a changé. Magasins et maisons se dressent comme des fantômes, mais on ne voit d'hommes nulle part. Le radiomètre affiche une radioactivité 2 fois, 3 fois plus forte que la norme. Les gens ne peuvent plus vivre dans un tel endroit. Comme est grande la colère de ses habitants. Voilà, toujours bonne année, bien sûr.
Merci Georges pour ce rappel de Fukushima et la situation des habitants. Le deuxième billettiste, c'est moi, aujourd'hui, exceptionnellement. Et je vais vous parler de la COP21, puisqu'on en a beaucoup parlé le mois dernier, et on va avoir tendance à l'oublier maintenant. Le monde retient son souffle, il compte sur nous, déclarait Laurent Fabius. Les chefs de gouvernement des pays influents veulent donc nous faire croire que l'accord signé le samedi 12 décembre au Bourget est porteur de solutions pour le climat. mais la grandiloquence est proportionnelle à l'absence de perspectives efficaces pour contrer la hausse des températures. Alors que les experts climatiques exhortent les gouvernements à prendre rapidement les décisions pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré centigrade d'ici 2100, les dirigeants du monde se sont avérés bien incapables de prendre les mesures nécessaires et contraignantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La mise en scène de leur spectacle, où ils posent et répètent à l'envi que l'accord signé est historique, ne réussit pas à masquer la réalité. L'accord stipule que le pic des émissions de gaz à effet de serre devra être atteint dès que possible. Mais il n'y a aucun engagement chiffré. En outre, les engagements des États mis bout à bout permettront au mieux un réchauffement de 3 degrés centigrades. On est donc bien là, bien loin des 1,5 degrés claironnés par M. Fabius et Mme Royal. Et un mécanisme de révision sera mis en place tous les 5 ans, mais pas avant 2025, c'est dire. Si Hollande et son gouvernement menaient autre chose qu'une opération de communication, ils engageraient dès aujourd'hui des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Renoncement de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, renoncement de la ligne à grande vitesse sous les Alpes, le fameux TAV, aux autoroutes, aux fermes-usines, aux projets d'exploitation de gaz de schiste, aux barrages inutiles, aux parcs d'attractions grandioses, aux subventions des énergies fossiles, à la construction des EPR et bien sûr à la poursuite du nucléaire. Ils prépareraient le développement massif des énergies renouvelables pour couvrir 100% de la production électrique, la rénovation et l'isolation des bâtiments, la construction de logements à basse consommation, le développement des transports en commun gratuits et la reconversion de l'agriculture. Enfin, il aurait fallu proclamer haut et fort lors de cette COP21 que le nucléaire ne pouvait pas et ne pourra pas sauver le climat. La COP21, en fait, a ripolliné en vert la filière électronucléaire, prompte à se présenter comme incontournable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au point que Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, partenaire officiel et sponsor de la Conférence mondiale sur le climat de Paris, a annoncé sans sourciller le 23 octobre qu'il prévoyait de construire dans l'Hexagone, d'ici au milieu du siècle, plusieurs dizaines d'EPR nouveaux modèles en remplacement du parc actuel des réacteurs. Alors disons-le, seules nos luttes pourront obtenir la sauvegarde du climat. Malgré l'état d'urgence et les interdictions, la journée du 12 décembre a fait la démonstration que la mobilisation n'est pas seulement indispensable, elle est possible et enthousiasmante. Enthousiasmante par sa jeunesse, sa diversité, son dynamisme et la détermination des participants. Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui ont porté le message radical, avec au cœur le mot d'ordre « changer le système et pas le climat ». Le meeting de clôture au Champ de Mars annonce la poursuite des mobilisations qui ne s'arrêteront pas avec la COP21, mais vont au contraire se développer et se multiplier dans les mois et années qui viennent. Ces mobilisations porteront sur plusieurs thématiques, politique énergétique, et énergie renouvelable, migration, souveraineté alimentaire, agroécologie paysanne, urbanisme et transport public, politique de commerce et d'investissement, etc. D'ores et déjà, de nombreux rendez-vous sont fixés au niveau local, national et international. Une première date est retenue du 7 au 15 mai, notez-la sur vos agendas, pour des actions partout dans le monde contre les énergies fossiles, puis en octobre, par un grand rassemblement, et là on vous en reparlera, contre l'EPR de Flamanville. Au-delà de tout cela, c'est la question d'un mouvement global pour la justice climatique qui nous est posée. Et maintenant, musique.
Il y a des chansons qui reviennent, comme revient le mois de mai. Chansons d'amour vieilles rengaines, où toujours rime avec jamais. Je veux sur la même musique parler du monde d'aujourd'hui, mi-souriant, mi-nostalgique, conclure en déclarant ceci. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit. suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Oui, je voudrais en quelques strophes livrer messages et discours et être un nouveau philosophe en allant chanter dans les cours. Avec mon piano à bretelles, j'irai de pays en pays répandre la bonne nouvelle et faire un peu d'écologie. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Et si par malheur je m'essouffle à vouloir tout dire en chantant, je me mettrai dans mes pantoufles, je m'arrêterai quelque temps. Mais comme revient l'hirondelle un jour à la belle saison, je reviendrai à tire-d'aile célébrer pelouse et gazon. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Heureusement qu'il y a de l'air.
Vous êtes toujours sur Atomic Mac et nous sommes avec Gilles Reynaud, travailleur du nucléaire dans la sous-traitance. Gilles, vous êtes bien là ?
Oui, je vous entends très bien, bonjour.
Vous nous entendez très bien. Essayez de parler un peu plus près du micro peut-être parce que là on a un petit problème de... C'est
là,
bon comme ça ?
Mieux ?
Non mais ça a l'air d'aller là, c'est bon.
Bon. Vas-y.
Alors, bonjour Gilles, voilà, c'est Annie. Et tout d'abord, nous te présentons nos meilleurs vœux et des vœux particulièrement liés à ton activité professionnelle. Car tu vas nous l'expliquer, l'année 2016 ne semble pas très bien commencer. Alors, petit rappel, la technologie nucléaire est une technologie dite de pointe, de haute précision, mais cette technologie ne peut fonctionner toute seule. Et des techniciens expérimentés, des hommes et des femmes, sont indispensables au bon fonctionnement. Et là, la situation actuelle est préoccupante, car la situation des salariés du nucléaire dans notre région est de plus en plus précaire, difficile. Nous entendons tous bien sûr parler d'EDF, d'Areva, mais le recours à la sous-traitance à plusieurs niveaux noie les responsabilités. Le film Grand Central nous parle des conditions de travail, de vie, de survie dans le monde nucléaire. Merci donc Gilles d'avoir accepté de venir nous éclairer un petit peu. Alors voilà la première question, tu travailles dans le nucléaire, tu es représentant du personnel salarié de la sous-traitance. Tout d'abord, peux-tu nous rappeler ce que signifie sous-traitant du nucléaire et combien de niveaux de sous-traitance peut-on retrouver ?
Oui, alors bonjour Annie, et bonjour à tous les auditeurs, et meilleur bon aussi à tout le monde pour cette nouvelle année. Donc la sous-traitance, en fait, ce sont les exploitants, donc que ce soit EDF, Areva ou le CEA, qui ne sont plus en capacité de faire une activité, parce qu'ils n'ont plus les compétences, parce qu'ils estiment que ce n'est pas très valorisant pour ces exploitants. On sous-traite, donc on fait un appel d'offres.
Gilles, excuse-moi, je t'interromps parce que c'est très coupé. On va te rappeler. Tu as un autre téléphone un peu meilleur ou... Parce que manifestement, la communication n'est pas bonne du tout.
Ça va être un petit peu plus compliqué, malheureusement.
Bon, d'accord. Bon, bah écoute, continue, mais alors, parle doucement parce que la communication n'est vraiment pas bonne du tout.
Bon. Donc oui, la sous-traitance, en fait, ce sont des exploitants du nucléaire qui ne veulent plus faire certaines activités et qui donc font des appels d'offres. Ce sont des entreprises extérieures qui répondent à ces appels d'offres. La source d'abord, ça englobe beaucoup, plusieurs métiers. Hein. Aujourd'hui, l'EDF sous-traite plus de 80% de ses activités.
80% donc, des activités sont, à l'heure actuelle, sous-traitées dans les centrales, c'est ce que tu nous dis.
Tout à fait, c'est ça, ce sont les chiffres, oui. Et ça augmente encore. Hein. Donc, on sous-traite les activités. Donc, c'est un rapport après commercial qu'a l'exploitant nucléaire avec l'entreprise extérieure qui va faire l'activité. Donc, on va regarder, bien sûr, le montant de l'affaire, le chiffre, la somme à payer à cette entreprise extérieure. Et très souvent, les centrales d'achat vont prendre le moins de 10 ans. Qui dit moins de 10 ans, dit des répercussions sur les conditions directes des salariés, baisse de la sous-traitance de ces entreprises. Et donc, c'est des inquiétudes, quoi, parce que si les conditions de travail se dégradent, dans les installations nucléaires, on n'a pas vraiment le droit de se prendre en pareille situation.
Dis-moi Gilles, il y a des sous-traitants qui sont sur des postes fixes, il me semble que c'est ton cas, et puis il y a des sous-traitants nomades. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que signifie cette expression ?
Alors, les sous-traitants fixes, oui, ce sont des gens qui ont des contrats pérennes sur 5-6 ans, parce que ces contrats sont valables 5-6 ans, ils sont remis en cause au bout de 6 ans, donc ce sont des emplois précaires, on a des contrats à durée de chantier, entre guillemets, de 6 ans. Au bout de 6 ans, on ne sait pas si notre entreprise va garder l'activité ou si c'est une autre entreprise qui va reprendre l'activité.
D'accord.
Après, pour les nomades, donc, ce sont des personnes en fait, qui travaillent principalement lors des arrêts de tranche sur EDF. Donc, c'est là où on fait des opérations de maintenance et de renouvellement du combustible. Et donc, il y a des métiers très spécifiques, il y a des besoins particuliers. Hein. Il y a 58 réacteurs sur notre territoire, 19 sites nucléaires EDF. Et donc, les copains, les copines aussi qui travaillent dans cette industrie prennent leur véhicule et puis se déplacent. Bon, à Gravelines, par exemple, bon, à Cattenom, bon, à Fessenheim, bon, sur tous les sites de France. Et donc, leur durée de mission aussi est variable de quelques semaines, deux, trois semaines à plusieurs mois.
Merci. Donc, une deuxième question. Nous voici en tout début d'année 2016. Or, depuis le 1er janvier, à Tricastin, la situation des sous-traitants est particulièrement inquiétante. Peux-tu nous expliquer ce qui a changé depuis le 1er janvier à Tricastin ?
Alors à Tricastin, ce qui a changé donc, depuis le 1er, c'est qu'une entreprise a perdu, pour une sud, hein, pour le nommer, a perdu un marché de logistique nucléaire. Et c'est une nouvelle entreprise qui a repris ce contrat. Il faut savoir que cette entreprise a présenté à l'appel d'offres un montant inférieur de 30% à ce que proposait Polynor Sud.
Pardon, un montant donc, inférieur de
30%.
30%, d'accord.
30% moins cher. Donc, bien sûr, pour l'exploitant, lui, ça l'intéresse. Mais derrière, nous, ça nous inquiète parce qu'on se rend compte que nos copains et nos copines qui ont accepté de rester sur le bassin d'emploi du Tricastin, parce qu'ils n'ont pas de possibilités, parce qu'ils ont des attaches, des enfants, une vie sociale sur le Tricastin, ont accepté donc de passer dans cette nouvelle entreprise qui s'appelle Techman, c'est le grand groupe Onet, et donc ils voient leur salaire revu à la baisse. Donc pour une personne qui va travailler 35 heures semaine, 151 heures par mois, elle va perdre à minima 200 euros. Pour les autres copains qui vont faire les arrêts de tranche, donc les arrêts de tranche, on travaille en 3-8, les horaires postés, on travaille 6 jours d'affilée et on a 2 jours de repos, et là les copains vont perdre entre 400 à 800 euros. Donc voilà, je me pose la question, qui peut se permettre aujourd'hui de perdre de l'argent comme ça sur une activité, un métier ou qui est aujourd'hui un petit peu banalisé, et c'est ça aussi qui me préoccupe.
Oui. Eh bien, écoute, nous avons aussi une autre préoccupation. Par exemple, juste avant Noël, j'ai pu lire dans le journal local qu'à Cruas, on avait une augmentation de la température de la piscine de stockage du combustible dans une unité qui était pourtant en arrêt programmé. Et il semble que ce soit dû à une position inadaptée d'une vanne qui était fermée au lieu d'être ouverte. Comment, que se passe-t-il donc à Cruas? Parce qu'il semble qu'il y ait des incidents à répétition. Et que dit à ce sujet le CHSCT donc, de Cruas?
Alors oui, sur Cruas, il y a eu des événements marquants un petit peu en fin d'année. Là. Comme tu dis, Annie, le problème de la vanne, donc, il faut savoir que ça, c'est de la responsabilité de l'exploitant. C'est lui qui gère son installation, c'est lui qui va condamner ou s'assurer que l'installation est en état de bon fonctionnement. Donc si une vanne est mal positionnée, c'est souvent de sa responsabilité. Alors après, on peut creuser un petit peu. Hein. Il y a aussi aujourd'hui des nouveaux arrivants à EDF, hein, des gens qui débutent, qui sont peut-être pas assez compagnonnés. Donc voilà, ce sont des comment on appelle ça, des écarts dans les règles générales d'exploitation. Après, concernant un autre événement qui a eu sur Cruas, qui a aussi nous interpeller, c'est un pontier polaire hein, qui a accroché une rambarde de sécurité. Et puis on s'est rendu compte, quand on a fait l'arbre des causes de l'incident, donc ça n'a pas été méchant, hein, c'était du fer tordu tout simplement, on s'est rendu compte que cette personne n'était pas autorisée à conduire le pont polaire. L'employeur ne l'avait pas autorisé.
D'accord.
Alors, le pont polaire, c'est un élément central dans un bâtiment réacteur. Hein. C'est avec ce matériel que vous allez soulever le couvercle de la cuve. Vous allez lever les éléments supérieurs et internes de la cuve où il y a des assemblages de combustible. Donc, on a tout intérêt à ce que ces personnes qui soient dans cette cabine et qui manipulent ce pont, elles soient quand même habilitées, formées, tout simplement.
Ah, ça, c'est sûr qu'on a tout intérêt. On va faire une petite pause musicale, si tu veux bien, Gilles, et on reprendra en ayant une question un peu plus précise sur le CHSCT. À tout de suite.
Et on va essayer en même temps, pendant l'intermède, d'améliorer la communication téléphonique. Merci, à tout de suite.
D'accord, merci.
Hard-working people, let's drink to the lonely of birth, raise your glass to the good and the evil, let's drink to the salt of the earth, say a prayer for the common foot soldier, spare a heart for his back-breaking work, for his wife and his children, burn the fires and who still till the earth. When I search a faceless crowd, a swirling mass of green and black and white, they don't look real to me. In fact, they look so strange. Raise your glass to the hard-working people. Let's drink to the uncounted heads. Let's think of the wavering millions. He's leading, but they canvas and shade. Real to me. Or don't they look so plain?
te retrouvons. Gilles, es-tu bien là, encore avec nous?
Oui, je t'entends très bien.
Voilà. Bon, on va peut-être t'entendre un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est un petit peu haché et on s'excuse auprès des auditeurs. Mais il était très difficile pour toi d'être avec nous dans le studio aujourd'hui. Alors, on a parlé... Pardon?
Aujourd'hui, non, c'est un petit peu compliqué pour moi d'être présent à vos côtés.
Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Dominique qui va avoir une question un peu plus générale sur les CHSCT.
Oui, parce que, bonjour. Tu nous as parlé un petit peu de la situation à la fois à Tricastin et à Cruas. Globalement, comment ça fonctionne, les comités d'hygiène sécurité dans une centrale entre salariés d'EDF ou d'Areva, quand on est chez Areva, et les salariés de la sous-traitance? Est-ce que c'est un comité de CHSCT, comité d'hygiène sécurité et conditions de travail unique, ou est-ce que vous êtes séparés, c'est-à-dire qu'il y a peu d'échanges entre les différents intervenants?
Alors, c'est une très bonne question, Dominique, parce que le CHSCT, justement, des entreprises extérieures, n'a pas pignon sur le site. C'est le CHSCT de l'exploitant qui, lui, est quand même, comment dire, maître dans son territoire. Et la particularité, c'est qu'à Cruas, par exemple, le CHSCT fonctionne avec des salariés de sous-traitants. Donc, c'est une initiative qui a été faite sur le site de Cruas. On devrait l'avoir généralisée à tous les autres sites nucléaires. On invite dans le CHSCT, officiel d'EDF, des salariés de la sous-traitance pour qu'ils puissent parler de leur situation, des remarques qu'ils peuvent avoir à faire. Est-ce que ma réponse...
Oui.
Dominique?
Ah oui, non, pardon, excuse-moi, parce que je ne savais plus si on coupait, parce qu'on t'entend très 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 mal. Mais oui, alors, je posais cette question pas innocemment, parce qu'on voit bien comment fonctionnent les comités d'hygiène sécurité. Il y a des informations obligatoires que doit donner l'employeur. Et la crainte un petit peu, là, ce serait que finalement, dans les informations qui sont données au CHSCT d'EDF, on ne parle pas des sous-traitants. Et dans les comités d'hygiène sécurité des sous-traitants, on ne parle pas d'EDF. Résultat, on ne peut pas faire le lien entre les différents incidents et les mesures qui pourraient être prises, qui pourraient être des mesures conjointes, par contre, elles.
D'où l'intérêt de travailler en commun avec les agents EDF arrivant au
Complètement.
Et les salariés des entreprises extérieures.
Et cette expérience de Cruas, elle date depuis combien de temps?
Ça va faire 2 ans, 5 ans peut-être, je crois, que ça fonctionne comme ça. Quoi. Il y a un représentant d'entreprise extérieure.
Ouais.
Allô?
Ah, non. On a perdu Gilles.
Je pense qu'on a perdu Gilles.
Gilles.
La communication semble coupée.
Allô?
Oui, non, te voilà revenu. On a des coupures et là, on ne t'entendait plus du tout. Alors, vas-y.
Oui, donc je disais qu'à Cruas, ça fait 5 ans, je crois, que le CHSCT fonctionne de la sorte, où des entreprises extérieures sont invitées à siéger dans le CHSCT. Et c'est, je pense, un travail très intéressant qui mène et montre un exemple à suivre.
Et pourquoi cet exemple-là se développe-t-il pas dans toutes les autres centrales ou sociétés comme
HSCT? Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation.
Mais il n'y a pas non plus d'efforts d'EDF ou des entreprises de sous-traitance pour que ça se fasse. C'est la pression des salariés qui a joué ou c'est eux qui ont eu l'initiative?
Alors, je ne sais pas la réponse qui peut la porter, mais nous, en tant que sous-traitants, on aimerait intégrer justement des groupes de travail avec les agences statutaires des sites où nous travaillons pour évoquer nos problèmes, nos difficultés, les idées que nous avons pour améliorer. Mais aujourd'hui, la réglementation impose à un exploitant d'organiser des siestes du comité interentreprise de sécurité au travail. C'est une fois par an. Le CHSCT peut se réunir tous les mois, tous les trimestres. Voilà, c'est des réunions qui vont traiter d'un sujet particulier, d'une intervention délicate, et de faire en sorte que ça se passe pour le mieux.
D'accord.
Ça, c'est intéressant, quoi.
Alors, je posais cette question-là aussi parce que dans une étude faite par l'École Polytechnique de Paris, une étude qui date, elle date de 1999 maintenant, on écrivait que 82% des employés de la sous-traitance nucléaire souhaiteraient quitter la filière s'ils en avaient la possibilité. Est-ce que ce chiffre, donc, suite à une étude de l'École Polytechnique 99, te paraît toujours réel? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est un peu mieux maintenant? Est-ce que ça a empiré?
C'est difficile. Je dirais que je crois qu'on doit être dans les mêmes... parce qu'aujourd'hui, voilà, donc j'explique que la sous-traitance, c'est une mise en concurrence des entreprises et donc des salariés entre eux, un dumping social conséquent, et donc à un moment donné, on préfère aller travailler ailleurs que de se voir un petit peu méprisé par rapport au travail que l'on fait.
D'accord, merci. Bon, c'est en tout cas un travail peut-être à refaire par le biais des CHSCT, justement, de refaire une enquête de ce type, quoi, manifestement.
Oui, je pense que ça pourrait être porteur de, oui, d'une situation qu'il faut aujourd'hui prendre à bras le corps. On connaît le facteur organisationnel et humain, les fameux FOH. Aujourd'hui, l'ASN a, depuis l'accident de Fukushima, il y a eu des évaluations complémentaires de sûreté. On est venu sur toutes les installations sur le territoire pour s'assurer qu'on était en conformité. Et puis, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils oubliaient l'essentiel, c'était les hommes. Les hommes qui font tourner ces machines. Donc, aujourd'hui, ils ont créé un comité d'orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains. Et donc, là, on espère que l'ASN va vite donner des résultats de ses travaux, de ses avancements. Et on espère bien, nous, par exemple, que l'association Amazon Contrôlée, dont je suis le secrétaire, donc on va peut-être envisager un statut spécifique pour les travailleurs nucléaires.
Alors,
en termes à cette mise en concurrence.
Justement, Gilles, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette association et du site internet dont tu es le secrétaire, donc Mazone Contrôlée. Comment avez-vous lancé cette idée? Est-ce que tu peux nous en parler et puis peut-être en faire un peu la promotion pour que chacun aille voir ce site très intéressant?
Oui, donc merci Annie. Le site, je l'ai créé avec des copains en 2009. C'était suite à plusieurs événements sur le site du Saint-Castin. Il y avait eu une contamination de la rivière La Gaffière. Et puis c'était donc sur le site Arrival, Saint-Quartier exactement. Et puis derrière, il y a eu des événements, des contaminations internes sur le site EDF du Saint-Castin, où vous travaillez. Il y a eu plusieurs problèmes d'assemblage combustible suspendu au-dessus de la cuve. Et donc, j'avais dit avec des copains, ce serait peut-être bien qu'on essaye de créer un site internet, un blog.
Oui.
Mais c'est une idée que nous avons pour améliorer un petit peu notre situation. Et surtout sécuriser cette industrie. La sécuriser. Mm-hmm. Vis-à-vis de tout le monde. Et donc, l'idée est partie de là. Et puis, donc, ça maintenant, en 2009, on va avoir bientôt 6 ans d'existence. Et puis, il y a 2 ans, nous avons décidé de créer une association. Nous serons groupés en association loi 1901, qui nous donne aujourd'hui la possibilité de siéger au sein de la CRIGET, au sein de la CRIV Romand NBFC. Là, nous avons des représentants des salariés de la sous-traitance qui vont parler des activités qui sont réalisées sur ce site et qui posent des questions aux exploitants, directement aux exploitants.
Alors dis-moi, cette association est reconnue comme l'association de travailleurs et c'est à ce titre-là que vous pouvez siéger dans les commissions locales d'information.
Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons le statut d'invité, mais ça risque d'évoluer parce que c'est vrai que depuis que nous siégeons dans ces instances, les retours que nous en avons, c'est que nos remarques ne laissent pas indifférent les... toutes les personnes qui participent, tous les membres de ces commissions. On voit bien que la sous-traitance, aujourd'hui, le côté social prend toute son importance. Parce que on fait des activités sensibles, sur du matériel important pour la sûreté, et donc nous avons tout intérêt à ce que les salariés de cette industrie soient considérés. Et qu'on arrête de les mettre en concurrence.
Bien.
On parle de la pyrigue.
Voilà. Écoute, merci Gilles de tous ces éclaircissements et d'avoir mis un petit peu de l'humain dans ce nucléaire parce qu'on en a bien besoin de ce rappel. Nous allons nous quitter là maintenant et on te dit à très bientôt.
Je pense qu'on pourra effectivement refaire une émission un peu ouais. Sur effectivement les conditions de travail, rentrer un peu plus dans le détail et j'espère que
volontiers,
ce sera...
Volontiers. Nous voulons faire connaître à nos concitoyens un petit peu aujourd'hui ce qui se passe dans cette industrie. avec nos mots, avec notre vécu. Nous ne sommes pas des communicants. Nous sommes là pour informer avec ce que nous faisons. Et ce n'est pas malheureusement, ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la fiction.
Eh bien, on va prendre rendez-vous dès aujourd'hui pour une prochaine émission là-dessus.
Merci,
qui nous intéresse
Gilles.
Beaucoup. Merci Gilles, bon courage.
Merci, au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Alors ça va être un peu plus clair maintenant parce qu'on n'est plus au téléphone, mais c'est Jeanne qui nous fait son intox, désintox.
Il faut que je me mette en face du micro quand même.
Oui.
4 ans après le désastre de Fukushima et malgré l'hostilité de la population, le gouvernement japonais a redémarré la centrale de Sendai. Les arguments avancés par le gouvernement japonais sont de 3 ordres. Le premier argument, c'est le déficit commercial. En 2013, pour la première fois en 3 décennies, la balance commerciale japonaise a été déficitaire de 11,5 milliards de yens. 4 milliards de ces 11 milliards sont attribués au surcoût des importations de pétrole et de gaz en remplacement de l'énergie fournie par les centrales nucléaires. Toutefois, dès avril 2015, la balance commerciale était redevenue excédentaire du fait de la chute des achats de pétrole et de la politique d'affaiblissement du yen menée par l'administration Abe depuis décembre 2012, ce qui a revalorisé les exportations. Au vu des chiffres de la balance commerciale du premier semestre 2015, le déficit commercial de 2015 pourrait être 4 fois moindre que celui de 2014. L'arrêt du recours au nucléaire n'a donc pas eu sur la balance commerciale du Japon l'impact désastreux attendu. Le deuxième argument, c'est le réchauffement climatique. En valeur absolue, les émissions de CO2 n'ont pas cessé d'augmenter au Japon depuis les années 50. Sur la période récente, en dépit d'une hausse significative du recours à l'énergie fossile, le montant total des émissions de CO2 après la catastrophe de Fukushima n'a pas augmenté dans les proportions escomptées par les experts. Les deux principaux facteurs sont premièrement les économies d'énergie réalisées, qui ont permis de compenser 28% de la chute de la production électronucléaire entre avril 2011 et mars 2014, et deuxièmement, le recours accru aux énergies renouvelables. La catastrophe de Fukushima n'a donc pas précipité le Japon dans une inexorable croissance de ses émissions de dioxyde de carbone, mais est venue conforter une tendance à la hausse antérieure au désastre. Le troisième argument, c'est le coût de l'électricité. Entre 2009 et 2014, les prix de l'électricité ont cru de 24,4% pour les particuliers au Japon, alors que la hausse était plus élevée en France, 44,6%. Pour la même période, la hausse était de 35,6% pour les industriels japonais et de 40% pour les industries françaises. Le gouvernement japonais parle de catastrophe nationale et relie directement ces hausses à l'arrêt du nucléaire. Il ne peut attribuer totalement ces hausses à l'arrêt du nucléaire pour au moins 2 raisons. La première est historique. Au début des années 90, les niveaux des prix étaient équivalents au niveau actuel, pourtant considérés comme des records. La deuxième est qu'un pays comme la France, nucléarisé à 75% pour la production d'électricité, a connu une hausse plus importante qu'au Japon. Par ailleurs, les comparaisons de prix entre l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables et les énergies fossiles sont faussées car le coût du kilowattheure issu du nucléaire ne tient pas compte des hausses des investissements en sécurité faites par les entreprises d'électricité, hausse qui serait 2,5 fois plus élevée que ce que l'étude prévoit. Au Japon comme en France, les décideurs refusent de voir la réalité et présentent le nucléaire comme la solution immuable pour toute politique énergétique qui se respecte, anti-émission de CO2, anti-hausse des prix de l'électricité, anti-déficit commercial. Si vous souhaitez retrouver les arguments et les graphiques, ce billet est tiré de Nucléaire, le triple chantage du gouvernement japonais de Thierry Ribaud. Thierry Ribaud est chargé de recherche au CNRS et anime depuis 2014 une équipe de 8 chercheurs qui travaillent entre autres sur la cogestion des dégâts de la catastrophe après l'accident nucléaire de Fukushima.
Eh bien, merci beaucoup pour ce billet. Alors, très rapidement, puisqu'on n'est pas en avance, L'agenda, eh bien, 22 au 31 janvier, les 12e rencontres de l'écologie au quotidien à Die, avec un thème « Changer de vision pour un monde solidaire » et au programme des ateliers, des projections de films, conférences, débats. Vous pourrez trouver ça sur le site www.ecologie.quotidien.fr. Autre information, le 28 janvier 2016 à 16h30, et là nous vous appelons à venir nombreux, c'est l'audience au tribunal correctionnel de Valence sur où sera examinée l'affaire de violation des règles d'identification, d'entreposage et de transfert interne des matières fissiles, c'est compliqué, à l'usine FBFC de Romans-sur-Isère. Donc rassemblement devant le tribunal à 16h30 le 28 janvier. Enfin, tous les samedis matins, bien sûr, de 11h à 12h30, vous pouvez nous retrouver place Porte Neuve, et la réunion mensuelle de Stop Nucléaire Dromardèche, c'est toujours le lundi, le quatrième lundi du mois, donc là ce sera le lundi 25 janvier à 18h à la Maison des Sociétés de Valence. Cette émission a été présentée par Jeanne, par Annie, par Georges et Dominique, avec à la technique Céline, c'est pour ça qu'on ne l'a pas entendue sur l'agenda. Vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur au 08 05 69 67 58, c'est un appel gratuit. Et la date de la prochaine émission, eh bien, ce sera le 1er février 2016, où on essaiera de mieux faire fonctionner le téléphone. On vous souhaite encore une fois une belle année à tous et on part sur Babylone.
Le ciel se voile, les glaciers transpirent, Babylone, plein de gasoil, nos poumons quand on respire dans Babylone. Pour pouvoir s'évanouir, jouir sans entrave, dans son travail et vieillir, mourir au volant d'une safrane et de quelques loisirs. Je me dis,
salut, Kisma,
Babylone. Je me dis,
salut, Kisma,
faut que je respire.
Je me dis,
moyenne par station métro, c'est trop dangereux.